Chapitre 8. Trois semaines environ, après le douloureux événement qui avait frappé sa famille, Jem résolut de profiter du dimanche pour s'habiller et pour aller faire une visite à Burton. Il prit ses habits de fête, mit à sa boutonnière un narcisse, dans l'espoir que cette fleur embaumée attirerait l'attention de Mary et qu'il aurait alors la joie de la lui donner. Puis les cheveux bien pommadés, la figure rouge et luisante à force de l'avoir savonnée, il se dirigea vers l'endroit où demeurait le vieil ami de son père. Burton fumait sa pipe au coin du feu, en lisant un ancien numéro de l'Étoile du Nord que lui avait prêté un cafetier du voisinage, et Mary, sa Bible sur ses genoux, était assise auprès de la fenêtre, à demi cachée derrière l'un des volets, pour regarder au dehors, sans être vue des passants. Lorsque Jem entra dans la chambre, il alla droit à Burton, sans avoir l'air de se douter qu'il y eût quelqu'un avec lui, et sachant bien pourtant que Mary se trouvait là, même avant qu'il l'eût aperçue. Il se retourna vers elle pour la saluer à son tour. Elle le reçut avec plus de froideur que d'affection, mais elle ne put s'empêcher de rougir excessivement, en dépit de l'indifférence qu'elle voulait lui témoigner. Et le pauvre James se demanda si c'était de crainte, de colère ou d'amour. Il se rapprocha de Burton et se mit à causer avec lui. Mary affecta de reprendre sa lecture et de s'y livrer tout entière, ce qui ne l'empêchait pas d'entendre toutes les paroles de Jem, et surtout ses profonds soupirs, qui lui allaient au cœur. Enfin, plus émue qu'elle ne se l'avouait à elle-même, elle feignit d'être troublée dans sa pieuse occupation par le bruit que faisaient les deux causeurs, prit sa Bible et monta dans sa chambre. Elle n'avait dit qu'un mot à Jem, l'avait à peine regardé et n'avait nullement fait attention au narcisse qui n'attendait que le plus léger éloge pour lui appartenir. Jem ne savait pas, bien heureusement pour lui, que, dans la chambre où montait la jeune fille, se trouvait un magnifique bouquet de roses donné par le jeune et riche Mr. Carson. Et pris dans ses propres filets, il lui fallut écouter ce que lui disait Burton et tâcher d'y répondre. Voilà dans ce journal un excellent article, tout à fait bien tapé, relativement à la diminution des heures de travail, lui dit tout à coup le vieil ouvrier, après lui avoir demandé à plusieurs reprises des nouvelles de sa famille. « Je suppose toutefois que le salaire ne diminuerait pas en même temps, » répondit Jem. « Assurément, quel bénéfice y aurait-on si l'on ne vous payait pas? Mais t'ai-je raconté ce qui m'est arrivé à l'hôpital une fois que j'avais la fièvre, il y a bien des années ?»« Non, » répliqua Jem avec indifférence. « Eh bien, tu sauras donc que j'ai pris la fièvre et que l'ouvrage n'allait pas. » J'étais à l'hôpital où se trouvent de braves garçons, parfaits pour un chacun tant que vous restez en vie, bien qu'ils vous taillent et vous rognent à leur manière aussitôt que vous êtes mort. Ainsi donc, je finis par guérir. Mais j'étais si faible qu'un rien m'eût fait tomber, pas plus de force qu'un enfant, et blanc comme un navet, si bien que, voyant ça, le carabin me dit un jour « Si vous saviez écrire, vous resteriez toute une semaine de plus. On vous emploierait à relever des notes sur les papiers du médecin. » « Nous vous remplirions l'estomac, et vous ne tarderiez pas à retrouver toutes vos forces. » »« Marché convenu, comme bien tu penses, et me voilà donc toute la journée, copiant des mots, que je n'avais jamais vus, et qu'ils écrivent d'une si drôle de façon qu'il me fallait prendre chaque lettre une à une, comme un poulet qui ramasse des grains de blé. Mais au milieu de tout cela, voilà ce que j'ai trouvé, pas moi. Les chiffres m'ont passé de la tête, mais c'est égal. Presque tous les accidents qui mènent l'ouvrier à l'hôpital arrive pendant les deux dernières heures de travail, quand on est si fatigué qu'on ne peut plus faire attention. J'en ai parlé au docteur, qui m'a dit que c'était vrai, et qu'il en faisait faire le relevé pour mettre le fait au jour. Comprends-tu à présent ? Jem pensait à Mary et tâchait de s'expliquer sa conduite, mais le silence interrogatif de Burton lui faisait entendre qu'il fallait répondre au moins un mot, ne fût-ce que par politesse. « Vraiment ?» dit-il, sans trop savoir de quoi il s'agissait. « Oui, mon garçon, rien n'est plus vrai. Tant nous sommes accablés, pressurés, sans parler de ce qui viendra plus tard, car ça empire tous les jours. Aussi, les imprimeurs sur bois se sont-ils associés pour s'empêcher d'être écrasés comme les autres. Ils vont se mettre tous en grève, et ma foi, ils feront bien. Que de choses ont arrivé auxquelles on ne s'attend guère. Je ne te dis que ça, mon garçon, mais crois-en ce que je t'avance. » Jem ne demandait pas mieux que de s'en rapporter à Burton et de le croire sur parole. Mais comme il n'exprimait nul désir de connaître les événements si graves qui semblaient se préparer, Son interlocuteur crut devoir insister davantage. « Tu sens bien, » ajouta-t-il, « que l'ouvrier ne saurait être opprimé plus longtemps. Il en supporte déjà plus qu'un homme ne peut le faire. Ainsi donc, si les patrons ne veulent rien accorder et disent qu'ils ne peuvent pas, nous nous adresserons à qui est assez haut pour nous faire rendre justice. » Jem ne se montrait pas plus ardent à questionner Burton. Il avait perdu toute espérance de revoir Mary avant son départ, et ne pouvant ni la regarder, ni l'entendre, il ne désirait plus que d'être seul afin de penser à elle. Ainsi donc, saisissant le premier prétexte qui lui vint à l'esprit, il balbutia quelques paroles pour s'excuser de partir aussi vite, et laissa Burton à sa pipe et à ses réflexions. Les affaires allaient mal. Depuis 3 ans, le commerce languissait de plus en plus, et le prix des denrées allait croissant chaque jour. La misère la plus affreuse résultait forcément de cette disproportion entre un salaire de plus en plus restreint et le taux exorbitant des vivres qui menaçait de monter encore. Des familles entières s'éteignirent, faute de nourriture, au milieu d'une agonie à laquelle un Dante seul a manqué pour en dire les douleurs. Et le génie même du peintre des enfers eût été impuissant à retracer les effroyables tortures que subit une population tout entière pendant cette terrible époque, de 1839 à 1841. Les philanthropes, qui essayèrent d'en étudier les causes, reculèrent, épouvantés, et s'avouèrent vaincus en présence de cette misère sans nom, qui dépassait toute croyance et leur donnait le vertige. Comment s'étonner après cela des sentiments de haine que les ouvriers conçurent à l'égard des patrons, qui, ne partageant pas leurs souffrances, passaient à leurs yeux pour en être la cause? Ils allèrent plus loin et enveloppèrent dans leur ressentiment les magistrats, les législateurs et jusqu'aux ministres du culte, qui, disaient-ils, se joignaient à leurs oppresseurs pour prolonger leur misère. Et ce ne fut pas l'un des moindres malheurs de ces jours d'agonie que l'abîme creusé par la souffrance et le désespoir entre les différentes classes dont se compose la société. Moins qu'une autre, peut-être, suis-je capable d'exprimer toute l'horreur du tableau dont j'essaye en vain d'esquisser quelques traits. Mais sur une terre chrétienne, il a fallu qu'on ignorât complètement ces douleurs pour qu'elles puissent exister. Et si faibles que soient mes paroles, peut-être pourront-elles concourir à faire connaître les maux qu'elles signalent et à réveiller l'attention des puissants et des heureux d'ici-bas. Parmi ceux qui subirent ces privations atroces, beaucoup pleurèrent d'abord, qui en vinrent à maudire. Et quand j'ai vu des parents couchés au cœur de l'hiver sur le pavé humide des caves pour réserver leurs grabats infects à de pauvres enfants épuisés, quand je les ai vus sans feu, sans vêtements et sans pain, arriver aux dernières limites du besoin et descendre avant l'âge dans la fosse commune, trop étroite pour les contenir, je ne puis plus être surprise des paroles et des actes qu'engendrent fatalement ces époques de misère. Tout à coup, le bruit se répandit parmi les ouvriers que le gouvernement ne savait rien de leur souffrance. Ils crurent possible, tant cette idée ranimait leur espoir, que des hommes eussent accepté la mission de faire des lois sans connaître l'état réel de ceux à qui ces lois devaient être imposées. Possible qu'un chef pût tout régir dans sa propre maison et ne pas savoir que les enfants qui habitent sa demeure y passaient les jours entiers sans pouvoir se procurer la moindre nourriture. Il arriva même jusqu'aux oreilles de ces malheureux que l'existence de leur misère avait été niée au Parlement, et si étrange que ce fait pût leur paraître, il réveilla leur courage en leur faisant espérer qu'il suffisait de montrer leur détresse dans toute sa profondeur pour qu'elle vînt à cesser. En conséquence, une pétition couverte de milliers de signatures fut adressée au Parlement vers la fin de mai 1839 pour supplier les représentants de la nation de recevoir et d'écouter les témoins qui leur seraient envoyés et qui déposeraient de l'atroce dénuement au milieu duquel agonisait la population ouvrière des grands centres manufacturiers. Nottingham, Sheffield, Glasgow, Manchester et beaucoup d'autres villes choisirent pour porter cette pétition des hommes qui pouvaient dire non seulement ce qu'ils avaient vu, mais encore ce qu'ils avaient souffert, et sur qui la faim et le désespoir avaient marqué leur dévorante empreinte. Burton, choisi pour être l'un de ses délégués, eut sans doute rougi de laisser voir, à côté du juste orgueil que lui inspirait le choix dont il était l'objet, la satisfaction enfantine qu'il éprouvait à la pensée de visiter Londres, et surtout le mouvement de vanité qui s'emparait de lui en songeant qu'il exprimerait son opinion devant la Chambre. Mais ces considérations puériles s'évanouissaient bien vite, au milieu de la joie profonde et désintéressée que lui donnait la certitude qu'il croyait fondée, de concourir au soulagement immédiat de ses frères et d'empêcher pour l'avenir le retour des privations et de souffrances dont le Parlement, une fois instruit, saurait détruire la cause. Qui peut dire de quels vœux ardents les délégués allaient être suivis dans l'accomplissement de leur message? Et quel espoir mettait en eux cette masse d'affamés qui les avait choisis? La veille du jour où les députés de Manchester devaient partir pour Londres, tous les voisins de Burton, tous ses amis et tous ses camarades vinrent dans la soirée pour le voir et lui souhaiter bonne chance. Job Legh, installé près de la cheminée, parlait peu, mais fumant sa pipe avec plus d'ardeur que de coutume. Il essayait de prouver l'intérêt qu'il prenait au voyage de Burton, en s'occupant d'attiser le feu et d'en rapprocher les fers que Mary avait mis chauffer pour repasser les deux chemises qu'elle savonnait pour son père. Elle s'inquiétait de l'effet qu'il produirait à Londres et s'efforçait d'apporter tous ses soins à la toilette du tisseur. L'habit des dimanches avait été retiré de chez le prêteur. Malheureusement, on avait pu dégager le foulard, dont elle regrettait vivement l'absence. « Eh bien, te voilà donc sur ton départ, John !» dit l'un des visiteurs en entrant chez Burton. « Mais il faut bien que je parte !» répondit celui-ci, paraissant obéir à la nécessité. « Il y a bien des choses que je voudrais te voir dire aux membres du Parlement, John, et j'espère que tu n'y manqueras pas. Ne leur mâche pas les paroles. Dis-leur ce que nous pensons, nous autres. Il y a bien assez de temps que nous mourons tous de faim, et qu'on ne voit pas trop à quoi ils peuvent servir, s'ils ne savent pas nous donner le pain que nous demandons en pleurant depuis le jour de notre naissance. Assurément que je leur dirai, et bien d'autres choses encore lorsque viendra mon tour, mais tu sais que beaucoup d'autres parleront avant moi. Enfin, tu finiras par dire aussi ton mot. Dis-leur donc de commander au patron de briser toutes leurs machines. L'ouvrage n'a jamais bien été depuis qu'il y a des métiers qui font la besogne tout seuls. Les machines, voyez-vous, c'est la ruine du pauvre monde, s'écrièrent plusieurs voix. Pour ma part, dit un homme à demi vêtu, qui, frissonnant de froid et de fièvre, s'était glissé près du feu, ce que je te recommande, c'est de leur dire de voter la loi qui diminue les heures de travail. Le corps s'use vite à la peine. Et pourquoi exigerait-on d'ouvriers des fabriques plus de besogne en un jour que dans tout autre métier? Demande-leur ça à Burton, et surtout qu'ils le disent. Burton, qui ne savait trop que répondre à toutes ces recommandations, fut tiré d'embarras par l'entrée de Mistress Davenport. La pauvre veuve, pâle et fatiguée par le jeûne et l'éveillé, mais décemment vêtue, apportait un col de chemise qu'elle avait fait pour son ancien bienfaiteur et qu'elle remit à Mary. « Père, voyez donc !» s'écria celle-ci toute joyeuse. « On va vous prendre pour un dandy. Regardez ce que Mistress Davenport vous donne. Un beau col, fait à la nouvelle mode. Quelle bonne coupe! Merci bien d'avoir songé à lui. « Mon Dieu !» répondit la veuve. « Tout ce que je puis faire est bien peu de chose en comparaison de ce qu'il a fait pour nous. Mais si je vous aidais, Mary, ce voyage doit tant vous occuper. » Et Mistress Davenport, tout en aidant la jeune fille, ne tarda pas à se joindre à la conversation, redevenue générale quelques instants après son arrivée. « Je suis bien sûr, dit-elle à Burton, que vous n'oublierez pas de vous plaindre aux gens du Parlement de cette mauvaise loi qu'ils ont faite pour empêcher les enfants d'entrer dans les manufactures avant un certain temps, quand bien même ils en auraient la force. Voilà mon Ben qui vous avale la soupe et qui mangerait, faut voir. Je n'ai pas l'argent pour le mettre à l'école ainsi que je le voudrais. Ça ne fait que traîner et courir dans les rues tant que la journée est longue, s'affamant encore plus à ce métier de polisson où il ramasse toutes sortes d'habitudes. Et l'inspecteur ne veut pas qu'il entre dans une manufacture parce qu'il n'est pas en âge. Lui qui est deux fois plus fort que ce rabougri de Sunkey, pauvre petit misérable, qu'on fait travailler jusqu'à l'en faire pleurer, tant la fatigue l'accable. C'est-il là une raison, quand il serait plus âgé que le règlement ne l'exige? J'ai un plan que je désirerais communiquer à Burton, dit pompeusement un orateur qui s'écoutait parler. Je ne doute pas qu'il ne le soumette à l'honorable chambre. Ma mère, native du comté d'Oxford, était attachée aux lessives, dans la famille de Sir Francis Dashwood. Elle nous faisait maintes récits sur la grandeur de cette famille, et nous disait entre autres choses que Sir Francis mettait deux chemises par jour. Cela nous prouve qu'il en avait beaucoup, et je ne doute pas que les membres du Parlement ne soient au moins aussi curieux de beau linge. Si donc Burton est supplié de ne porter que des chemises de calicot, ce serait un grand bien qu'il nous ferait, car le commerce ne manquerait pas de reprendre avec une commande aussi considérable. Job Legh, qui jusque-là n'avait rien dit, ôta sa pipe de ses lèvres et s'adressant à l'orateur.
« Je te répondrai à cela,
dit-il,
et n'y vois pas d'offense, qu'on les compte par centaines, ceux qui ont tant de chemises à se mettre sur le dos, mais qu'il y a des milliers de pauvres tisseurs comme nous qui n'en ont jamais qu'une et ne savent plus où en prendre lorsqu'elle est en guenille, bien qu'ils fabriquent des 1000 pièces de calicot par jour, et que tout ce calicot, de leur façon, aille s'empiler au fond des magasins, où il reste à moisir. Faute de gens pour l'acheter, ce qui arrête toute la machine. Crois-moi plutôt, Burton, demande au Parlement que le commerce soit libre et que l'ouvrier reçoive un salaire plus convenable, qui lui permette de se donner 2 ou 3 chemises par an, et tu verras si l'ouvrage ne reprendra pas tout de suite.
« Je crains bien, mes amis, dit Burton à son tour, de ne pas avoir le temps de compter aux membres du Parlement tout ce que vous venez de me dire. Ils pensent que la misère n'existe pas. C'est bien. Et c'est là-dessus que je veux les éclairer. Quand ils sauront que de pauvres innocents viennent au monde sur le carreau des caves, sans une guenille pour les couvrir, et sans qu'on ait une bouchée de pain à donner à leur mère pour qu'elle puisse les nourrir, qu'on voit des gens crever de faim sur le pavé des rues ou se cacher dans un trou pour y attendre la mort au milieu de 1000 souffrances, que la fièvre se joint à la famine et au froid, que l'ouvrier agonise enfin de toutes les manières, ils feront pour sûr quelque chose de meilleur et de plus sage que nous ne pourrions l'imaginer. » Quelques-uns branlèrent la tête en signe de doute, mais le plus grand nombre partagea l'espoir qui venait de lui être donné et s'en alla content, laissant Burton seul avec sa fille qui finissait les préparatifs du départ. Quand tout fut terminé, Mary éteignit la chandelle et, mettant sur le feu, dont la lueur formait leur seul éclairage, la soupe faite de la veille qui devait composer tout leur repas, elle s'assit auprès de son père, et tous deux puisèrent à l'écuelle aussitôt que la soupe fut chaude. « N'as-tu pas remarqué, lui dit Burton, quelle pauvre mine Jane Wilson avait ce soir ?»«
Je n'y ai pas fait attention, répondit la jeune fille. Elle ne s'est pas relevée de la mort des deux jumeaux. D'ailleurs, je ne l'ai jamais vue forte. »«
Pas depuis son accident, mais avant cela, je m'en souviens, comme si c'était hier. » Il n'y avait pas de plus belle fille, ni de plus fraîche dans toute la ville de Manchester.
Quel accident veux-tu dire?
Elle s'est prise de côté dans une roue. C'était dans le temps où les roues n'étaient pas enfermées, et justement à l'époque où George la recherchait en mariage. Beaucoup pensaient que le marché serait rompu, mais cela ne connaissait guère notre épouseur. La première fois que la malade put sortir, ce fut pour être menée par George à l'église. Pauvre Jeanne! Je la vois encore, pâle et boiteuse, remontant la nef soutenue par Wilson qui marchait tout doucement et la soignait comme une mère, tandis qu'un tas de vauriens les plaisantait sottement. Pas moins, c'est un heureux mariage, et je puis le dire, moi qui suis resté avec George comme s'il était mon frère. Il ne vivrait pas longtemps une fois que Jeanne serait morte, et je n'aime pas la figure qu'elle avait aujourd'hui. Il se coucha, mêlant à ses pensées d'avenir le pressentiment du chagrin qu'il redoutait pour son ami. Le lendemain, il partait au lever du soleil, et Mary, qui le suivait du regard, ne rentra chez elle qu'après l'avoir vu disparaître. Elle remit tout en ordre en songeant à son père. Complètement seule, pour la première fois de sa vie, elle se demanda comment elle passerait les soirées, prit de bonnes résolutions qu'elle se promit de tenir, et se dirigea vers l'atelier de Miss Simmons, où le travail et la distraction voilèrent bientôt le souvenir du voyageur. L'une de ces bonnes résolutions que Mary avait prises était d'éviter Mr. Carson pendant l'absence de son père. C'était s'avouer à elle-même qu'elle avait tort de le voir, et pourtant elle restait persuadée que sa conduite n'avait rien de répréhensible, puisque ses entrevues avec Mr. Carson devaient assurer un jour le bonheur de tout ce qu'elle aimait. Toutefois, sachant bien que, s'il avait pu le savoir, Burton eût certainement désapprouvé tout rapport entre elle et son riche adorateur, elle résolut de s'abstenir, au moins jusqu'à son retour, de toute communication avec le beau jeune homme. Mais parmi les jeunes filles qui travaillaient à l'atelier de Miss Simmons, il y en avait une qui était forcément devenue sa confidente, ayant été choisie par le galant pour porter ses messages et pour plaider sa cause. Henry Carson avait trouvé dans Sally Leadbeater un avocat zélé, qui déployait pour le servir autant de ruse que d'ardeur. Elle se fut entremise volontiers dans toute question amoureuse pour le seul plaisir de se mêler d'une intrigue, mais son bon vouloir avait été considérablement augmenté en faveur de notre riche soupirant, par les quelques souverains qui lui glissaient de temps à autre. D'un esprit très vulgaire et sans aucun principe, considérant au contraire comme un honneur la plus longue liste d'amants qu'une jeune fille pût fournir, Sally, trop laide pour jamais songer à devenir l'héroïne d'une aventure quelconque, essayait de racheter sa laideur par une certaine audace, et parvenait à faire dire qu'elle avait du piquant, souvent même par des gens d'une intelligence bien supérieure à la sienne. Corrompue dès l'enfance et assez fine pour comprendre à qui elle s'adressait, elle devenait d'autant plus dangereuse qu'elle se montrait complaisante et dévouée. D'ailleurs, en elle, tout n'était pas mauvais. Les Juifs ou les Mahométans, je ne sais plus bien lesquels, pensent que nous avons dans notre corps périssable un os quelconque, une vertèbre peut-être, qui jamais ne se réduit en poussière et se conservera intacte jusqu'au jour du jugement. Suivant leur opinion, cette parcelle incorruptible est la semence de notre âme. Ainsi les plus dépravés ont en eux le germe de toute sainteté qui un jour effacera leur souillure. Et ce germe sacré, renfermé chez Sally, était l'amour qu'elle avait pour sa mère, qui, vieille et infirme, ne sortait plus de son lit. Elle s'oubliait pour elle, et retrouvait pour l'aimer une tendresse vive et pure. Elle lui souriait avec douceur et dissipait ses ennuis, veillait auprès de sa couche en dépit de la fatigue, et conservait, pour la distraire, une verve intarissable, pour la soigner, un dévouement sans bornes. Malheureusement, la mère de Sally n'avait elle-même qu'une morale peu sévère, et quand sa fille lui parlait d'Anne Richardson, en lui montrant le demi-souverain qu'il lui avait donné, la vieille femme ne cachait pas sa joie, et faisait tout haut des vœux pour que cette amourette durât longtemps encore. La résolution de Mary déplaisait donc à la mère et à la fille, presque autant qu'elle désolait Henry, peu habitué jusqu'alors à trouver des cruelles. Un soir que Sally avait rencontré Mr. Carson, d'autant plus épris qu'on lui résistait davantage et qu'il l'avait chargé d'une lettre suppliante avec prière d'y joindre mille instances, elle résolut d'aller trouver Mary et de s'acquitter immédiatement de cette commission délicate. Mary était bien triste. Elle venait d'apprendre la mort subite de Wilson, le père de Jem, le vieil ami de Burton, l'un des êtres qui lui avait été le plus sincèrement attaché et qu'elle aimait depuis son enfance. Que de vide la mort faisait chaque jour autour d'elle, et combien cette nouvelle imprévue ferait de chagrin à son père, lui qui avait tant d'inquiétude relativement à Jeanne. Pauvre femme, c'était elle qui survivait à son mari, et le malheur n'en était que plus affreux. Ainsi préoccupée de sa douleur, et surtout de celle de Jem, la dernière personne qu'elle eût désiré voir était Sally, qui précisément venait d'entrer dans la chambre. Elle se leva néanmoins pour lui donner une chaise et tourna vers elle un visage baigné de larmes. « C'est bon !» s'écria Sally. « Je pourrais dire à Mr. Carson combien vous êtes désolé de ne pas le voir. Du reste, c'est bien le moins que vous puissiez faire pour lui, après ce qu'il a fait pour vous. »« Pleurer à cause de lui !» répliqua Mary en secouant sa jolie tête. « Ne vous en défendez pas. Il y a déjà plusieurs jours qu'on vous entend soupirer, comme si votre cœur allait se fendre. Et dites-moi, n'est-ce pas agir comme une sotte que de refuser de le voir, lui qui vous adore et que vous aimez aussi? Car enfin vous l'aimez, beaucoup, passionnément. Quelle sottise !» dit Mary, en faisant une adorable petite moue. « Il y a des instants où je crois même que je ne l'aime pas du tout. » « Dois-je le lui dire la première fois que je le verrai ?»« Comme vous voudrez, » répondit Mary. « Je ne me soucie de rien aujourd'hui, pas plus de M. Henry que d'autre chose. » Et ses larmes coulèrent de nouveau. Mais il ne convenait pas à Sally de rapporter de mauvaises nouvelles à celui qui payait généreusement les bonnes, et comprenant qu'elle aurait tort d'insister sur l'objet de sa visite pendant que Mary avait sans doute quelque chagrin dont la cause lui était inconnue, elle prit un air de circonstance et lui demanda ce qui la faisait pleurer, en lui témoignant plus de sympathie qu'elle n'en ressentait véritablement. « C'est George Wilson qui est mort ce matin, » répondit Mary, dont les sanglots redoublèrent. « Cher ami, que voulez-vous? Notre corps passe comme l'herbe des champs. Aujourd'hui, sur la terre, et demain dans la tombe, dit la Bible. Puis, il était vieux, plus bon à grand-chose. Il en meurt tous les jours de plus fort et de plus jeune. Est-ce que la vieille pincée vit toujours?
« Je ne sais pas de qui vous voulez parler, » répondit Mary d'un ton piqué. « Eh bien, si vous l'aimez mieux, Mademoiselle Alice Wilson, vit-elle encore? Je ne l'ai pas aperçue depuis longtemps. » Après la mort des deux jumeaux, elle a quitté notre voisinage pour aller vivre chez son frère. Tant mieux, grand bien lui fasse. Je ne me souciais pas de lui voir faire une méthodiste de ma charmante et spirituelle Mary. Mais elle n'est pas méthodiste, elle appartient à l'Église d'Angleterre. Comme vous voudrez, mais vous savez bien ce que je veux dire. Voyez-vous cette lettre? Devinez de qui elle vient. Je ne le sais pas et je ne veux pas le savoir, dit Mary dont le visage se couvrit d'une vive rougeur. Comme si je n'étais pas sûr que vous le savez au contraire, et que vous tenez à connaître ce qu'il y a dans la lettre. « Eh bien, alors donnez-la !» dit Mary impatientée et désireuse d'en finir. Sally se fit prier un peu, ne tarda pas à céder, et eut le plaisir de voir Mary décacheter la lettre et rougir de nouveau en la lisant, de manière à faire croire que l'auteur du billet la touchait un peu plus qu'elle ne voulait bien le dire. « Vous lui répondrez que je ne peux pas y aller, » dit enfin Mary. « Je me suis promis de ne pas le revoir tant que mon père serait absent, et je tiendrai ma promesse. »« Quelle cruauté, Mary! Si vous saviez combien il pense à vous, pauvre jeune homme, cela vous toucherait de le voir si abattu, si défait, tant il est malheureux de votre conduite envers lui. D'ailleurs, puisque vous acceptez ces rendez-vous quand votre père est ici, quel mal de plus feriez-vous en y allant maintenant ? C'est toujours la même chose. Vous connaissez ma réponse. Je ne veux pas, et je n'irai pas. Alors je lui dirai de venir lui-même. Il s'y prendra mieux que moi et saura vous convaincre. » Les yeux de Mary étincelèrent. « S'il ose venir ici pendant que mon père n'y est pas, s'écria-t-elle indignée, j'appellerai les voisins pour le mettre à la porte. Ainsi donc, je vous le dis, qu'il n'y mette pas les pieds. » « Miséricorde ! En voilà du tapage ! Et ne dirait-on pas que vous êtes la première fille qui ayez un amant? Comme si vous ignoriez ce qu'ont fait toutes les autres et ce qu'elles font tous les jours sans en avoir de honte. Chut, Sally! J'aperçois Marguerite qui vient passer la nuit avec moi. » La petite fille de Jobley ouvrit la porte au même instant. « Dans ce cas-là, je reviendrai. Est-ce bien votre dernier mot? Oui, oui, bonsoir. » Et Mary se hâta de reconduire sa visiteuse dont la présence lui devenait insupportable. « Oh, Marguerite » dit-elle en prenant la main de son amie, « sais-tu le malheur qui vient encore de frapper les Wilson ?»« Oui, j'ai appris ça tantôt. Pauvres gens, qu'ils sont donc éprouvés. Non pas que je plaigne ceux qui s'en vont et que les morts subites me fassent peur, au contraire, elles ne font pas souffrir. Mais ceux qui restent sont si malheureux. » « On dirait que tu as pleuré, Marguerite, » dit Mary, qui l'observait attentivement. Tu as les yeux rouges et les paupières enflées. Oh, ce n'était pas de chagrin. Sais-tu où je suis allée hier soir? Non, où cela? Elle fit briller aux yeux de Mary un beau souverain d'or. Tu sais, dit-elle, qu'un gentleman fait un cours de musique à la salle des arts et métiers. Il a besoin de chanteurs pour les airs qu'il compose, et comme la cantatrice a pris un gros rhume qui l'empêche de donner une seule note, il m'a fait demander si je voudrais le remplacer, en attendant qu'elle fût guérie. C'est Butterworth qui m'avait recommandé. Tu penses quelle frayeur m'a saisie, mais enfin, je me suis dit, à présent ou jamais. J'ai essayé quelques romances avec le professeur, et le directeur m'a dit ensuite de m'habiller décemment et d'être là vers 7 heures. « Et qu'as-tu mis ?» demanda Mary avec vivacité. « Pourquoi n'es-tu pas venu chercher ma robe de guingamp rose ?» J'y ai pensé, mais... « Tu n'étais pas là. J'ai mis tout simplement ma robe de mérinos, mon châle blanc, et je me suis fait coiffer. À 7 heures, je suis entré dans la salle, ainsi qu'on me l'avait dit. J'avais pris ma musique, bien que je n'y voie plus pour la lire, mais c'était pour occuper mes doigts et avoir une contenance. À travers le brouillard que j'ai maintenant devant les yeux, je croyais voir tourner des milliers de têtes, et je sentais mon cœur s'en aller. » Heureusement que je n'étais pas pour chanter la première, et que la musique semblait m'encourager comme la voix d'une amie. Bref, pour tout dire, en un mot, quand tout le monde fut parti, le professeur me remercia, et le directeur me dit que jamais il n'avait vu de nouvelles chanteuses qui fût si applaudies. C'est bien vrai qu'ils ont tant frappé dans leurs mains et trépigné des pieds que je me demandais combien de paires de souliers il leur faudrait par semaine s'ils faisaient ce métier-là tous les jours. Mardi, je chanterai encore. Ce sera concert, comme hier. On m'a donné un souverain pour ma peine. J'en aurai autant mardi, et la moitié toutes les fois que je chanterai au cours du professeur. Oh, tant mieux, Marguerite. Je suis bien contente de tout ce que tu me dis là. Et ce n'est pas tout, reprit l'aveugle d'une voix émue. À présent, que je suis sûre de n'être à charge à personne, j'ai pensé que je pouvais tout dire à mon grand-père. Hier au soir, je n'ai parlé que du souverain et de la manière dont il m'était arrivé, pour qu'il ne se couchât pas avec une pensée triste. Mais ce matin, je lui ai dit tout doucement que j'allais devenir aveugle. Et qu'a-t-il répondu ? Tu sais qu'il n'est pas très causeur. Et puis, la surprise ôte toujours la parole. Voilà ce qui m'étonne à mon tour. C'est que de lui-même, il ne l'ait pas deviné. Si je t'avais rien dit, et si tu vivais avec moi, tu ne t'en serais pas aperçu. D'un jour à l'autre, la différence est insensible. Mais enfin, qu'a répondu ton grand-père ? Je ne sais pas si je dois le dire, car à moins de le connaître et de savoir qu'en penser, on trouvera ça étrange. Il a donc été surpris, comme je te le disais tout à l'heure. Et que le diable t'emporte ! S'est-il écrié malgré lui. Puis il a fait semblant de continuer sa lecture, pendant que je finissais de lui expliquer la chose, de lui avouer combien j'avais eu peur de ne pas savoir que devenir. Et comme j'étais tranquille et résigné à la volonté de Dieu, depuis que j'avais l'assurance de gagner ma vie en chantant. De grosses larmes tombaient sur son livre, cher grand-père. Maintenant, quand je me lève, il s'en va ôter bien doucement tout ce qui est sur ma route, ou chercher pour le placer auprès de moi les objets dont il pense que je peux avoir besoin. Il ne se doute pas que je le vois encore, bien que ça ne soit qu'à travers un nuage sombre et que probablement avant peu je doive être aveugle tout à fait. Marguerite soupira malgré tout son courage, et Mary, pour la distraire, lui reparla de son début et lui rappela ses succès. « Tu deviendras célèbre un jour, » lui dit-elle, « comme cette grande chanteuse que nous avons vue aller au concert, dans son propre équipage. » « Alors, » dit Marguerite en riant, « si tu es encore une bonne fille, je te prendrai pour femme de chambre. Ce sera trop amusant, et je chanterai pour de bon ce qui commence une de mes chansonnettes. J'ai de belles robes de soie et de l'argent à dépenser. » La voix souple et timbrée de Marguerite fit étinceler ses deux verres. Mary se mit à rire en disant « Notre équipage arrive, couchons-nous et allons en rêver. »